Pourquoi donc irais-je encore à la guerre? Après ce que j'ai vu, avec ce que je sais, où sont-ils à présent les héros de naguère? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elle berçait pour moi des rêveries anciennes, illusion d'un enfant dont il n'est rien resté. Les fleurs de ce printemps se fanent sur les tombes de tous ceux qui jamais ne reverront l'été. Sur leurs noms inconnus, le silence retombe. Nul ne saura plus rien de ce qu'ils ont été. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est la première d'une série de deux émissions consacrées à Michel Tessot. Michel Tessot fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Michel Tessot est né en 1939 dans une famille ouvrière. Et très jeune, il intégra lui aussi le monde ouvrier. Quand il eut 20 ans, ce fut l'âge de partir au service militaire. Il s'exécuta comme quasiment tous les jeunes de sa génération. Quand il fut de retour après ce qu'il a connu en Algérie, il reprit aussitôt une activité professionnelle. Et comme beaucoup, c'est à l'âge de la retraite, donc presque 40 ans après, qu'il entreprit de témoigner, ayant par ailleurs subi auparavant des pressions et menaces au cas où il le ferait. Michel Tessot a publié 2 livres autour de son expérience en Algérie, puis 4 autres où il a mis en forme livresque des témoignages de ses compagnons d'infortune. Il a réalisé 1 film et participé à la réalisation d'un autre autour de son témoignage. Une des particularités du point de vue de Michel Tessot et de faire apparaître clairement dans quelle estime étaient tenus les appelés par rapport à l'institution militaire et politique, et il nous livre des témoignages assez accablants, révélant cet aspect de ce que devaient vivre les appelés au service de la nation qui ne les respectait pas. Il y allait de mépris qui confinait à la maltraitance vis-à-vis de ces jeunes à qui on imposait une mission qui leur convenait pas et qu'en plus on voulait punir de ce manque d'adhésion. Michel Tessot, comme à tous les témoins de cette période avec qui nous nous entretenons, nous leur faisons une entière confiance sur la véracité de leurs propos, n'ayant ni les moyens ni la volonté de les vérifier. Et nos auditeurs, comme nous-mêmes, doivent se faire eux-mêmes une appréciation à partir de ce qui leur est donné à entendre. Nos entretiens se déroulent dans une relation de profonde confiance dont nous vous rendons témoin. Au fil de ces propos, quelques illustrations musicales viendront ponctuer le récit de Michel Tessot. Dans ce premier entretien, nous évoquerons sa vie jusqu'à son entrée à l'armée et la première année de son service militaire. À la fin de l'émission, nous vous proposerons une lecture d'une adaptation radiophonique d'un extrait de son ouvrage « Le venin du sang ». Cette diction sera assurée par André Bonhomme, que nous remercions. Bonne écoute.
Vous êtes né où?
Oui, alors moi je suis né dans l'Allier, à Moulins.
À Moulins. un moulin, et c'était pendant la guerre, parce que c'était en 39.
À quelle date exactement ?
Moi, je suis né en septembre 39. Donc, j'ai un frère qui est jumeau. Quand on est né, mon père était à la guerre. Donc, ma mère était toute seule pour accoucher de ses deux enfants. Et là, on a vécu à Moulins, un tout petit appartement. On avait vécu 5 ans, 5, 6 ans, avant de revenir après sur Caluire. Mon père étant à la guerre et travaillant à la SNCF, donc il avait été muté pendant la guerre à Moulins. Et c'est après la guerre qu'il a été à nouveau remuté sur Lyon.
Mais pendant la guerre, il n'était pas prisonnier, il était en France.
Non, il était en France. Oui, il travaillait oui et non, suivant les périodes, à la SNCF. Et après, il a été à nouveau remuté sur Lyon, étant d'origine de Saint-Genis-Laval.
Ah oui, il était originaire de Saint-Genis.
Oui. Donc, revenant sur Lyon, mes parents ont trouvé un petit appartement à Caluire, dans la grande rue Saint-Clair. Donc c'est un quartier populaire, comme on dit. C'est un quartier où, de mon côté, j'ai eu pas mal d'amis, de copains, puisqu'on traversait toute la grande rue Saint-Clair pour aller à l'école. Donc il y avait, de ce temps-là, M. Métra, qui est décédé depuis longtemps,
comme directeur. Vous étiez à l'école publique
À l'école publique, voilà, de Saint-Clair. Et là, j'ai été jusqu'à 14 ans à l'école, et après j'ai été mis au travail, et j'étais comme ajusteur balancier. Donc on réparait les bascules, on travaillait dans les poids et mesures, enfin tout ce qui était bascule, balance.
Comme apprenti.
À ce moment-là aussi, j'ai fait partie de Jeunesse ouvrière chrétienne de la JOC. C'était une très bonne expérience et je suis resté de nombreuses années à la JOC. Et là aussi, ça m'a, si on peut dire, mis dans la vie associative avec ce mouvement de la JOC.
De jeunes. C'était quoi la JOC ? Vous réunissiez une fois toutes les semaines ou
voilà, avec toutes les semaines, c'était avec un abbé, mais qui était toujours en civil. Il était un peu à l'avance, si on peut dire, de son temps.
Oui, donc des réunions sympathiques, puis peut-être des activités.
Voilà, c'était plus une réflexion sur la vie du travail. Donc on était un petit groupe d'une quinzaine de jeunes, d'apprentis. Et on réfléchissait, on voyait comment s'intégrer au mieux dans la vie et dans la vie du travail.
Et ça, jusqu'à quelle année, donc ?
Alors, j'ai fait jusqu'à ce que je parte en Algérie.
Donc, à l'âge de ?
De 20 ans.
Vous êtes parti à 20 ans. Vous êtes parti à quelle date, vous vous souvenez ?
Oh, je suis parti au mois de novembre, 1er novembre 59.
Et les deux années avant, comment ça se passait à la JOC ? Vous en parliez, déjà, de la
voilà,
guerre ?
Voilà, bien sûr, on parlait de la guerre d'Algérie à cette époque. Et j'avais, bien sûr, des copains d'école qui faisaient partie des jeunesses ouvrières communistes. Donc on était restés en bon terme avec eux, moi personnellement. Et on a fait des tracts en commun, si on peut dire quelques petites actions en commun contre la guerre d'Algérie. Collage d'affiches.
Ils disaient quoi ces tracts en substance au sol? Demandait l'arrêt de la guerre ou...
Oui, on dénonçait à ce moment-là aussi les tortures.
Déjà.
Oui, puisque j'avais été en Suisse récupérer des livres qui étaient censurés. J'avais des amis suisses Et il y avait le problème, il y avait la question, le livre de la question sur les tortures, il y avait enfin plusieurs petits fascicules que j'avais à cette époque.
Vous aviez été chercher en Suisse, quoi.
J'avais été en Suisse, oui. Donc en même temps on allait récupérer chez des amis et en même temps on en profitait avec des copains pour amener du tabac, puisque je fumais la pipe à ce moment-là, et c'était l'Amsterdamer qui était en grande vogue à ce moment-là, et qui avait un peu un goût de miel.
Qu'on ne trouvait pas en France.
Voilà, qu'on ne trouvait pas en France.
Et donc vous aviez une préoccupation déjà, si vous étiez déjà en train de carrément faire de la propagande contre cette guerre, vous étiez sensibilisé à ce qui se passait. Quoi.
Voilà, oui, puisque mes parents étaient aussi des militants. Donc j'avais aussi ma maman qui militait aussi au sein du MRP plutôt.
MRP à l'époque. Hein.
Voilà, et ils avaient dedans leur groupe aussi des gens qui étaient un peu à l'avant-garde, qui militaient aussi contre la guerre d'Algérie.
Vos deux parents étaient d'obédience plutôt chrétienne ou
chrétienne, communiste oui.
Chrétienne. Et l'idée qu'il vous faudrait peut-être y aller, vous envisagiez quoi ? D'y aller quand même ? De ne pas y aller de...
Si, il fallait... J'avais pas le choix, comme on dit. Hein. J'avais pas de relation en Espagne ou dans d'autres pays, comme certains ont pu le faire en désertant, si on peut dire, la France. Et c'était après pour... un temps assez long, et ne parlant pas l'espagnol ou d'autres langues, donc c'était impossible pour moi d'envisager.
Et un jour, vous recevez votre feuille de...
Alors, j'ai reçu mon petit carton, je crois, c'est comme quoi je devais rejoindre Chambéry dans les chasseurs alpins, le 13e BCA. Pour faire mes classes.
Ça, c'était donc le 1er novembre 59.
Voilà, oui. Donc, j'ai effectué mes classes. On était une très bonne équipe de jeunes, si on peut dire, qui était... Enfin, on était quand même pas mal solidaires. On échangeait très bien entre nous tous. On savait très bien ce qui nous attendait. C'était au bout de 4 mois, partir traverser la Grande Bleue. Mais là, bon ben, on n'y pensait pas trop. On faisait beaucoup de sport, de marche. Ça nous intéressait bien. Et en plus, quand même, il y avait une très bonne ambiance entre nous. Donc, les 4 mois se sont relativement bien passés.
Des classes pas trop axées sur la guerre d'Algérie, plutôt sur la formation du soldat en général.
Oui, voilà, sa formation du soldat, sur le sport, sur comment vivre à l'extérieur. Donc on partait des fois le soir, la nuit, on couchait dans des granges. Mais ceux qui nous accompagnaient, c'était des jeunes comme nous, qui avaient, sauf, ils avaient 4-6 mois de plus que nous, donc c'était un peu la même ambiance, le même milieu que nous, et c'était pas des têtes brûlées, comme on dit.
Vous parlez des caporaux, des...
Voilà, des caporaux.
Gradés juste au-dessus. Quoi.
Voilà, caporaux jusqu'à même sergent, hein, mais c'était des gens qui était très bien, hein. J'en garde un très bon souvenir.
Ils sont pas partis avec vous, eux, ils restaient.
Il y en a qui sont partis avec nous. Oui, qu'on a retrouvé après coup en Algérie. Hein.
Et votre départ, c'était...
Alors, mon départ...
Vous avez eu droit à une semaine de...
Oui, mais il a été un peu...
permission.
Un peu précipité, puisque à la fin des classes, il y avait le repas de la fin des classes. Et là, bon, bah, on avait peut-être un peu bu plus que de raison. Et là, j'ai chanté l'air du déserteur. Alors, bien sûr, il y avait un lieutenant qui sortait de Saint-Cyr, crâne rasé et compagnie, vous voyez à peu près le topo. Et là, il a dit, bon, bah, c'est bon, on arrête tout, vous montez tous dans votre chambre et on en reparlera demain.
Ah oui.
Et le lendemain, on m'a tout de suite convoqué avec mon paquetage. Et là, j'ai changé de caserne en attendant de partir 8 jours, 15 jours après en Algérie. Mais on s'est tous retrouvés sur le bateau.
On vous a sorti du groupe, mais pas définitivement.
Définitivement.
Quand vous êtes parti, c'était plus avec les copains de...
Non, mais on s'est tous retrouvés sur le même bateau.
Oui. Le déserteur dont vous parlez, c'est la chanson de Boris Vian.
Voilà, de Maurice Vian, oui. Et ce fameux lieutenant, qui sortait de Saint-Cyr, qui était fou... Et là, il me dit, en montant sur le bateau, il me dit, toi, Tessot, j'ai retrouvé, il me dit, toi, Tessot, dis adieu à la France, et je me charge de toi, et tu reviendras dans un cercueil.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Voilà à peu près, et je suis parti, et sur place, ce fameux lieutenant, je ne l'ai jamais revu, j'ai seulement entendu des bruits, comme quoi, plusieurs mois après, il aurait été tué par une balle perdue, et on a pensé que c'était un de mes copains, qui voulait se venger de lui, n'ayant plus de nouvelles, de mes nouvelles, parce que mon courrier, je l'ignorais complètement, était censuré, et toutes les lettres que j'envoyais, les copains ne les recevaient jamais, et toutes les lettres qu'ils m'envoyaient, je recevais non plus, je recevais jamais. Donc, après coup, je pense que ça a dû se passer comme ça. Et...
Quand il vous a dit ça, ça vous a fait quoi ? Vous avez cru à ce qu'il disait ou vous avez pris ça comme une menace gratuite ?
Non, parce que lui, c'était jamais gratuit. Hein. On savait ce qu'il disait. C'était vraiment... c'était un fou, entre guillemets. Hein. C'était pas... Donc... À la suite de ça, bon bah, on est arrivé à Alger. On est parti en train direction Tizi Ouzou, la grande Kabylie. Et arrivé à Tizi Ouzou, là on est descendu du train des wagons de bestiaux et on avait mis pour relier 100 km à peine, on avait mis peut-être 4-5 heures. Hein.
Pourquoi ça ?
Parce que il y avait énormément de la voie était plus ou moins piégée, il fallait vérifier, il y avait toujours un tas de contraintes avant d'arriver jusqu'à Tizi Ouzou. Donc là aussi ça m'a un peu mis pas dans le bain, mais j'ai dit, mais où donc que je suis tombé, hein. Dès que j'ai vu ça, et les jeunes, les soldats qui nous encadraient, qui étaient aussi des appelés du contingent, mais qui étaient là depuis X mois, ils n'avaient pas du tout le même visage que nous on avait en tant que bleus arrivant en Algérie.
On vous dit que le même visage, vous pensez aux expressions du visage ?
Aux expressions du visage, voilà.
Qu'est-ce qui les caractérisait, ces expressions ?
Ils avaient déjà un visage plus dur, Il ne souriait pas, et chaque fois qu'il parlait, il n'y avait aucune plaisanterie, c'était dur, il parlait un peu comme des adultes qui auraient roulé leur boss, et c'était pas pour faire semblant, hein, c'était vraiment, et je m'en suis rendu compte après aussi, au fur et à mesure des mois.
Vous êtes devenu comme ça ?
Je suis devenu peut-être comme ça, peut-être par la force des choses. Hein, bien que, étant déjà militant, j'étais déjà un peu endurci. Je sortais pas de ma campagne, entre guillemets, comme on dit, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient de leur campagne. Ils n'avaient jamais pris le train, qu'ils n'avaient jamais vu ce qu'était la vie. Hein. Donc moi, ayant un peu voyagé avant de partir à l'armée, ayant un peu roulé ma bosse dans le milieu associatif, et ayant un milieu familial de militants, donc j'étais pas durci, mais j'avais déjà un certain caractère qui s'était forgé à ce qui m'attendait, ce que j'allais vivre après coup.
Et avec l'idée dans votre tête de certaines choses que vous ne feriez pas, ou pas encore très nettement comme ça ?
Non, c'était flou, hein. C'était flou. Je le savais assez que mes copains, ce qui se passait en Algérie, mais c'était vague, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, où on allait atterrir, hein. Donc, arrivé à Tizi Ouzou, on nous a mis dans d'autres camions, on nous a dit, hop, là j'en prends 10, ils vont aller à tel endroit, 10 autres montés dans ce camion, ils vont aller à d'autres endroits, dans d'autres régiments. Alors, ça fait qu'on a quitté la plupart le 13e BCA, et on s'est retrouvé dans le 121e RI, régiment d'infanterie.
Vous étiez dans le 121e RI.
Voilà. Mais on a fait en sorte de garder toujours cet esprit chasseur, comme on dit. C'est vrai, il y avait quand même un esprit de solidarité. un esprit de réflexion. On essayait de ne pas être borné de ce qu'on faisait, de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et arrivé, je me rappelle, on est arrivé d'abord, on était à Souquetnine, sur un petit piton. Après, j'étais à Fort National. Puis à Fort National, c'est superbe. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans un pays aussi beau? Et on avait déjà côtoyé dans les premières semaines des gens des villages, des villageois, et qui étaient extrêmement gentils avec nous, et on se demandait pourquoi faire la guerre dans un si beau pays et tuer des gens qui sont aussi sociables et qui n'avaient rien du tout, hein. Des gens qui, des enfants, des femmes qui marchaient pieds nus, des vieillards qui n'avaient rien pour vivre, hein. Alors là, ça commençait un peu à poser des questions, mais on se pose des questions, mais on n'est pas pris dans l'engrenage, mais on est obligé de suivre le mouvement, on n'a pas le choix.
Donc vous dites au départ un piton, et vous êtes resté combien de temps sur ce piton ?
Oh, j'ai dû rester peut-être une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines à peu près.
Là, vous étiez nombreux, non ? Pas trop ?
Oh, on était une vingtaine à peu près, maximum.
Et après, on vous envoie à Fort National, là, c'était alors, une caserne, j'imagine.
C'était une caserne où on était là provisoirement, en attendant d'être muté, d'aller à tel endroit, tel autre endroit, tel autre piton. Alors, ce qui s'est passé, j'ai pas compris tout de suite, c'est que à cette époque-là, j'ai changé souvent de piton. Je comprenais pas pourquoi changer aussi régulièrement de piton et toujours dans des endroits relativement dangereux pour ma peau, comme on dit, hein. Et c'est après coup que j'ai compris, c'est que le carnet qui nous suivait, où il y avait tout notre passé, tout le résumé du bonhomme, hein, et arrivait toujours avec un certain abs de temps pour arriver jusqu'au piton. Et là, dès qu'ils ouvraient ça, qu'ils étudiaient, ils disaient « Ouh là là !» Alors bien sûr, le fameux lieutenant avait monté la sauce, alors que moi, comme j'avais dit après coup à des capitaines ou autres, moi je demande qu'une seule chose, c'est de faire mon service militaire comme tout le monde, hein, et puis t'es terminé, je refuse de porter des grades, puisque on était dans les EOR, donc j'aurais pu être caporal, sergent, mais j'ai toujours refusé, j'aurais dit que je refuserais de porter quoi que ce soit comme grade.
Et donc, oui, vous étiez repéré et ils se débarrassaient de ce mauvais esprit.
Voilà, oui, ils disent, bon ben, vaut mieux éviter de garder ce phénomène, alors que moi, hein, tous ceux qui m'ont connu, hein, ils m'auraient donné le bon Dieu sans confession. Moi, je sais ce qu'on me disait de faire. Quand il y avait des embuscades, je partais avec eux, aussi bien de jour que de nuit. Donc, je faisais mon travail, si on peut dire, de soldat, d'appeler du contingent.
Et sur ces pitons, vous y êtes resté jusqu'à la fin de votre service ?
Non. Alors, sur ces pitons, on a fait un certain nombre.
Et la vie quotidienne, c'était quoi, donc, pour vous ? C'était tous les jours une embuscade ?
Tous les jours. Hein. Il y avait même des fois, on partait le matin de bonne heure, on montait une embuscade, et après, dans la journée, on rentrait, et après, le soir, on recommençait pour faire une autre embuscade de nuit.
C'était fatigant, tout ça.
Oui, ben, c'était fatigant, mais on n'avait pas le choix, on était obligé de le faire. Hein.
Des accrochages ?
Des accrochages, donc on partait une dizaine, soit avec un sergent ou un officier pour monter une embuscade à tel endroit, à tel autre endroit, ou des fois on faisait des X kilomètres à pied pour monter une embuscade.
Donc dans ces accrochages, vous avez perdu des copains ou vous avez...
Oui, bien sûr, dans ces embuscades, comme on dit, lorsque vous êtes en face d'un ennemi, entre guillemets, potentiel, c'est le premier qui tire, on est là pour sauver sa peau. Donc là, j'ai eu des copains qui ont été blessés, d'autres qui ont été tués.
Mon pauvre ami, te voilà mort. J'ai fleuri ton pauvre corps d'une rose trémière. Tu étais beau, tu étais bon, tu sentais bon notre pays. Et nous étions de bons amis. Dans la poussière, mon pauvre ami, te voilà mort. J'ai fleuri ton pauvre corps d'une rose trémière. Je me souviens de ce chemin qui s'en allait. Nous le prenions chaque matin pour le village. Dans la poussière, mon pauvre ami, te voilà mort. J'ai fleuri ton pauvre corps d'une rose trémière. Tu m'écrivais, tu me disais que ce pays était très beau, que dans le sable fleurissaient les coquelicots. Dans la poussière, mon pauvre ami, te voilà mort. J'ai fleuri ton pauvre corps d'une rose trémière. Coquelicot, coquelicot, mais c'en est un qui est fleuri à ta boutonnière. Dieu, que ma rose trémière semble pâle près de lui. Dans la poussière, mon pauvre ami, te voilà mort. J'ai fleuri ton pauvre corps d'une rose trémière.
Pour poursuivre les propos que tient Michel Tessot sur ce sujet, nous vous proposons d'entendre la diction par André Bonhomme sous forme d'une adaptation radiophonique d'un extrait de l'ouvrage Le Venin du Sang qu'a écrit Michel Tessot et qu'il a dénommé Roman sur la guerre d'Algérie 1954-1962, paru en 2004. Cette dénomination de roman, sans doute pensons-nous par un souci de mise à quelque distance de ces événements autobiographiques et à ce titre tellement difficile à évoquer.
L'eau est toujours aussi rare et reste un bien très précieux et inestimable. Malgré tout, aujourd'hui, nous avons la possibilité de disposer d'un bidon de 10 litres pour nous doucher, mais nous devons le faire à deux. En l'absence d'autres copains sous notre marabout, Lucien me propose de nous rendre vers l'unique douche. Cela ne peut que nous faire du bien avant de rejoindre les copains et de descendre des mousses. Quelques gouttes d'eau sur notre corps cuivré et en sueur, puis c'est un savonnage rapide, avant de nous rincer jusqu'à la dernière goutte. Nos têtes et nos corps sont comme vidés par cette journée harassante. Nous sommes tous les deux à bout de nerfs. Lucien, lui, envisage de dégoupiller une grenade pour se coucher dessus et mettre ainsi un terme à sa souffrance. Moi, j'envisage au cours d'une opération de nuit de me balancer une rafale de PM dans la tête pour en finir. Les cigarettes et les litres de bière n'ont plus aucun effet sur notre psychisme et notre morale. Nous sommes maintenant devenus comme nos copains, de vrais loques humaines. Arrivé à la dernière goutte d'eau, Lucien tombe d'anéantissement et en pleure dans mes bras désespérés. Dans une nudité complète, nos deux corps se livrent à eux-mêmes. Ils se chevauchent et s'enlacent. Autour du cou de Lucien pend une chaînette en or et un médaillon avec une vierge sculptée. Il me déclare dans un sanglot « S'il m'arrive un malheur, tu récupéreras ce médaillon pour le donner à ma fiancée Josette, qui me l'a offert pour mon départ pour l'Algérie. » Pendant plusieurs minutes, corps contre corps, nous essayons de nous consoler en nous caressant. Maintenant, toujours enlacés, torse contre torse, par nos deux bras, nous pleurons à chaudes larmes. Le soleil couchant, mais encore brûlant, a séché par ses lointains rayons les dernières gouttes d'eau et ne laisse nos têtes posées sur l'épaule de l'autre, ruisseler que nos larmes le long de nos dos tremblants de chagrin. Nous pleurons tous les deux comme des gosses inconsolables. Notre désir de chaleur humaine est si puissant depuis ces 20 mois passés loin de tout être humain et civilisé que nous n'avons qu'une seule envie. C'est en nous projetant de nous identifier à l'autre par la pensée. Dans ce silence angoissant du Djebel, seuls les éclats de rire des copains occupés dans leur descente de bière à l'arrière du bâtiment nous parviennent aux oreilles comme des vagues successives. Quelques minutes après, nous séchons avec les mains nos dernières larmes, nous renfilons furtivement nos shorts pour nous diriger derrière cette bâtisse de pierre sèche et pour boire avec nos copains infortunés des bières et encore des bières afin d'éponger notre soif et notre mélancolie. Les jours suivants, nos deux regards profonds et inquiets avaient bien changé. Ils scrutaient à travers nos têtes squelettiques nos comportements réciproques. Nous avions découvert malgré nous une amitié infinie et profonde, liée à une folie passagère, une nouvelle dérive pour affronter et atténuer l'insoutenable déprime. Sans cette confrontation accidentelle de nos deux anatomies, il est fort probable que nous aurions mis fin à nos jours de façon tragique, là de cette vie de misère et de déchéance humaine. En moins d'un mois, il nous arriva encore de nous retrouver lors de rares instants intimes en soirée ou la nuit, lorsque nos deux corps, dans un épuisement total, étaient de nouveau près du suicide. Est-ce la malnutrition, la déshydratation du corps à bout, ce climat insoutenable, cette vie isolée et ésotérique? Est-ce le refus de notre corps de grand adolescent à devenir une bête guerrière, nos peurs et nos angoisses continuelles qui ont fini par s'incruster en entier dans notre être? Tout se brouille dans notre tête, la pudeur et les valeurs humaines n'existent plus. Mais à 20 ans, dans de telles circonstances, on ne se pose plus et on ne peut plus se poser de questions. Nous sommes entraînés dans un engrenage infernal et impitoyable que personne d'entre nous ne peut plus contrôler. Impossible de trouver une échappée, si ce n'est l'issue inévitable de la mort ou l'éventuelle quille libératoire à laquelle nous ne croyons hélas plus depuis bien longtemps. Ce jour-là, des renseignements inquiétants arrivaient au poste de radio. Les messages se succédaient les uns après les autres. Notre pauvre homme de radio, enfermé dans son cagibi mal aéré, ne pouvait même plus faire 2 mètres pour aller pisser sur le terrain et éliminer les bières qu'il buvait pour éteindre sa soif sous la chaleur étouffante de ce mois de juillet. Il dut saisir son casque lourd sous sa table de fortune et y soulager sa vessie. Nous étions tous somnolents, allongés sur nos paillasses, prêts à enfiler nos treillis pour partir vers une embuscade hypothétique. Au fur et à mesure que passaient les minutes, les faits se concrétisaient. Le chef de section nous demandait maintenant de nous préparer, de prendre suffisamment de munitions et d'attendre les dernières consignes du PC opérationnel avant de nous mettre en route. Cette fois-ci, les consignes étaient précises. Le chef de poste avait en main les cartes d'état-major. À sa sortie du poste, la tête rentrée dans les épaules, l'air inquiet et les yeux dans le vague, personne n'avait bronché. Nous avions tous compris que c'était sérieux. Une fois de plus, après une vérification rapide et ultime de nos armes et de notre matériel, notre chapeau de brousse sur la tête, tout comme des zombies, nous sommes partis lentement en file indienne, à travers les rochers, la caillasse et les taillis grillés par la chaleur, le long du sentier qui descend rejoindre un peu plus bas les diverses directions, le tout sous un soleil écrasant. Ce jour-là, Lucien était peu causant. Il semblait mal dans sa peau. Peut-être un cafard plus grand que d'habitude. Pas de courrier de sa fiancée depuis 8 jours, faute de largage par un avion indisponible. L'accumulation d'une trop grande fatigue. Une sueur froide coule le long de son jeune visage buriné et déjà ridé par le manque de nourriture saine et par tous les excès de souffrance quotidienne. Je m'avance pour me rapprocher de lui et j'échange une petite conversation pour le décrisper et lui remonter le moral. Lui qui n'a pas l'habitude d'être pessimiste me dit ouvertement qu'aujourd'hui, il a peur. Je le rassure et lui dis « Tu sais, cette opération n'est sûrement pas méchante. Aujourd'hui, nous ne serons pas les seuls dans le Djebel. Depuis plus de 2 heures, d'autres sections sont en place sur le terrain. Tu verras, tout se passera bien. Il y aura sûrement peu de grabuges. Si les Félagas reviennent sur notre territoire, nous leur ferons la peau, mon petit Lucien. » Alors il ralentit son allure. Sur son torse, à moitié découvert, au bout de sa chaîne en or, la médaille de la Vierge Marie offerte par sa fiancée avant son départ pour l'Algérie, navigue lentement, comme le balancier d'une horloge. Ce balancement me rappelle la vieille horloge de ma grande tante, installée le long du mur principal de la cuisine, face à la grande table en bois noircie par les années. Cette horloge qui égrenait inexorablement le temps dans une frappe monotone, parfois dans un silence angoissant de la campagne. Aujourd'hui, je remarque que son médaillon jette des éclats brillants sous le soleil et qu'il est à l'envers, le relief de la Vierge face à sa poitrine pour le protéger comme un enfant dans les bras de sa mère. Mais je n'y prête que peu d'attention et je continue mon cheminement. Lucien, tout en marchant lentement, la tête légèrement baissée, me jette alors un regard oppressant. Je distingue son œil brillant d'où coule une grosse larme. J'ai alors du mal à réagir. Cette larme qui ruisselle le long de sa joue enfantine m'est insupportable. Voir un soldat pleurer, c'est toujours dur. C'est comme recevoir une gifle. qui vous fait redescendre sur terre et prendre conscience dans une fraction de seconde que vous êtes encore un être humain enchaîné dans un cruel engrenage irréversible. Je me ressaisis immédiatement et je lui propose d'échanger notre position, de prendre sa place dans notre avancée vers l'inconnu face à l'ennemi que nous cherchons à débusquer. Sans le moindre mot, il me laisse passer devant lui. Nous reprenons alors notre cheminement avec notre espacement habituel. Le chef de section, qui a suivi de loin tous nos faits et gestes, sans une parole, me fait un signe approbatif de la tête accompagné d'un sourire d'encouragement. Pendant plus de 2 heures, dans une nature hostile et morte de toute vie, nous avançons avec une attention de plus en plus soutenue. Nos tenues de combat sont imprégnées par la transpiration qui ne cesse de couler le long de nos corps tuméfiés. Le chef de section continue à montrer une certaine nervosité. Il ne cesse de consulter ses cartes et documents. La cadence de la progression de notre section a maintenant ralenti. Le chef nous fait signe de redoubler de prudence et d'observation. Nous ne voyons rien de suspect autour de nous, pas un bruit. La nature semble comme endormie. Pas la moindre brise d'air qui pourrait donner un léger frémissement au taillis qui nous entoure. Seul le soleil nous écrase de tous ses rayons brûlants. Bien que nous ayons l'impression d'être traqués et observés de tous côtés, nous sommes tous là comme paralysés par l'angoisse. Nous n'avons reçu aucun message. Notre poste de radio serait-il une fois de plus en panne? Depuis 2 heures que nous crapahutons, pas un seul message n'a fait grésiller la radio. Les autres sections sont sûrement dans les environs, proches à nous observer, eux aussi impuissants dans notre avancée, maintenant suicidaire. Il est trop tard pour déclencher une demande de renseignement. Avec ce silence pesant, on nous entendrait à plusieurs kilomètres à la ronde et nous serions vite repérés par l'ennemi. Nos armes sont chargées, prêtes à faire feu. Nous nous faisons tout petits dans notre progression derrière les quelques taillis. Je distingue notre chef qui progresse et observe les alentours un peu au-dessus de nous tous. Puis dans un cri, d'une seule voix qui déchire ce silence, le chef s'exclame. « Attention, ils sont là !» Et ils vous ont tous en joue. Il n'a pas fini sa phrase, que nous sommes tous copieusement arrosés de toutes parts par les armes des félagas qui crépitent de tous les taillis. Les balles nous sifflent aux oreilles. Nous ripostons immédiatement à l'aveuglette avec toutes nos armes à travers les taillis qui nous entourent. Nous sommes pris comme dans un étau, comme dans la mâchoire du diable. Bien vite, et sous le feu de nos ennemis, les autres sections arrivent à notre secours avec leurs brassards afin de ne pas être confondus avec les félagas. Je me retourne pour voir les autres copains. Je constate alors avec effroi que Lucien est allongé sur le sol caillouteux. Je me précipite d'un saut à son secours pour le protéger et le mettre hors de portée des armes qui nous assaillent toujours. Les balles me sifflent à nouveau aux oreilles. Bien vite, et malgré sa douleur, j'arrive à le tirer pour nous mettre relativement hors de portée des assaillants. Je me rends compte bien vite que Lucien baigne dans son treillis tout ensanglanté. Il a été gravement atteint et blessé par une rafale dans le ventre. Maintenant, je suis assis à son côté. Je le tiens dans mes bras. Sa douleur est si violente qu'il ne peut plus parler. Son visage se métamorphose, il va partir, et il sait maintenant qu'il ne reverra plus ses proches. Je constate son état désespéré, et je ne peux rien faire avec ma petite trousse de secours qui ne peut guère que soigner une égratignure. Lucien, qui me fixe avec ses yeux comme figé dans les miens, se rend compte maintenant par l'inquiétude de mon visage désespéré qu'il est perdu. Il est trop tard. Il prend conscience de la mort, de sa propre mort. Avec le peu de force qui lui reste, et avec une douleur qui lui fait serrer les dents, il enlève la chaînette qui entoure son cou pour la passer autour de ma tête. La Vierge est maintenant imprégnée du rouge de son sang. Sa main prend la mienne et me serre fortement. Je lui dis alors quelques mots maladroits de réconfort. Nous sommes là tous les deux comme deux êtres désespérés. Je ne sais plus quoi dire. Et je sens en moi monter et m'envahir la haine dans tout le corps. Lucien, me fixant toujours de son regard malgré sa douleur, me sourit comme un ange. Lui que je n'ai jamais vu sourire là-haut sur notre piton. Surmontant sa douleur, et dans un effort pour prononcer quelques mots, il murmure « Quand tu rentreras en France, tu redonneras la médaille à ma fiancée. Tu lui diras que ma dernière pensée a été pour elle. » Je lui tends de nouveau la Vierge pour qu'il l'embrasse une dernière fois. Il poursuit lentement son murmure pour me dire « Excuse-moi, Paul, d'avoir la quille avant toi. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. » Sa main reste toujours serrée contre la mienne, comme s'il voulait s'accrocher et se réintégrer dans mon corps et ne plus me quitter. Je ne peux plus contrôler mes larmes. J'ai l'impression que mes yeux sont détachés de ma tête et qu'un torrent jaillit et déborde pour couler le long de mon visage meurtri pour rejoindre le sang de Lucien qui a taché mon treillis. Maintenant, les armes se sont tues. Les combats ont enfin cessé. Chaque section s'affaire à relever ses blessés et à compter ses morts. Notre chef de section, accompagné des soldats de notre piton, s'avance lentement vers moi pour avoir des nouvelles de Lucien. La main de Lucien s'est lentement desserrée de la mienne. Je ne vois plus rien de mes yeux embués. J'essuie mes dernières larmes de l'autre main. Je regarde une dernière fois les yeux vitreux et sans vie de Lucien, avant de refermer ses paupières. Notre chef fait disposer à 2 mètres autour de nous deux tous les copains du poste, aussi silencieux et catastrophés par la mort de Lucien. Il fait présenter les armes. Pendant de longues minutes qui me paraissent une éternité, je suis assis à même le sol, le corps sans vie de Lucien dans mes bras, devant tous mes copains. Et je m'imagine moi aussi mort et sans un souffle de vie, tandis que leur regard est fixé sur Lucien. Je vois notre chef saluer en pleurant. J'ai l'impression que le temps est immobile. Tous les copains, les yeux rougis, pleurent en criant vengeance dans le fond de leur cœur. Le chef ne peut plus sortir un mot de sa bouche. D'un geste lent de désespoir, il fait baisser toutes les armes. Bien vite, les hélicoptères tournoient autour de nos têtes avant de se poser à quelques dizaines de mètres de nous. Des brancardiers arrivent en courant pour évacuer au plus vite tous les blessés vers l'hôpital militaire le plus proche de la région. Puis le dernier hélicoptère charge les morts pour les transporter vers la morgue militaire. J'embrasse respectueusement le front de Lucien. Avec la chaleur, son sang a déjà séché en collant la toile de nos deux treillis. Maintenant, nous regardons tous debout et dans un silence religieux s'envoler la dépouille de Lucien, bien loin de cette terre haïssable, pour un autre monde, et pour qu'il vive cette fois éternellement en paix.
وقال جلاله قويتنا جاثا لنا قمطا وهنا.
Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité dans le creux de mes nuits. Alors je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe. Et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pour autant demeure abandonnée, la vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami, quelle est lourde à porter l'absence de l'ami.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de deux consacrée à Michel Tessot, un des 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. L'amour et la guerre, version 1, de Bernard Dimet, mis en musique par Charles Aznavour et interprété par Charles Aznavour. La chanson « Le déserteur » de Boris Vian sur une musique de Harold Berck, interprétée là par Boris Vian. Puis c'était la chanson de Raymond Faux, qu'il interprétait lui-même, « Ton visage dans la poussière ». Ensuite, un extrait de « Pencher sur une tombe nouvelle », un chant traditionnel berbère, interprété par Taos Amrouche, et enchaîné avec « L'absent » de Louis Amade pour les paroles, Gilbert Bécaud pour la musique et l'interprétation. Et dans la dernière partie de l'émission, nous vous avons proposé une lecture en adaptation radiophonique d'un extrait de l'ouvrage de Michel Tessot, Le venin du sang, paru en 2004. Cette diction était assurée par André Bonhomme, que nous remercions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième émission de notre série de deux consacrée à Michel Tesso. Bonsoir. Thank you.